9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé, on va bien démarrer la semaine aujourd'hui, on va se motiver un petit peu. J'ai invité Clémence Castel, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous, bonjour Philippe.
Ça fait plaisir de vous voir, vous avez remporté au Koh-Lanta 2 fois, et vous avez participé 3 fois.
Oui.
C'est pas mal comme, finalement, comme ratio.
C'est pas mal, j'ai gagné 2 fois à 13 ans d'intervalle surtout. Et j'ai, j'ai senti la différence.
Vous étiez une très jeune candidate d'émission de télé-réalité et après vous étiez
moins
jeune.
J'étais moins jeune.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes coach parental.
Oui.
Voilà, et vous publiez votre histoire et vous faites partager un petit peu les enseignements que la vie vous a apportés dans un livre qui s'appelle « Aller jusqu'au bout ». Le sous-titre est presque plus important puisque c'est « En restant soi-même ». Et on verra quels sont les principes qui régissent votre vie. On parlait de Koh-Lanta. Moi, j'ai pas la télévision. Il va falloir que vous m'expliquiez tout.
Hein, il n'y a pas de souci. Avec plaisir.
Parce que moi, je pensais que Koh-Lanta, c'était un jeu facile.
Bah, il va falloir que je vous explique vraiment.
C'est pas parce que l'eau est turquoise et qu'il y a du sable blanc que finalement la vie est facile.
Mais les paysages paradisiaques, ça fait toujours plaisir à regarder. Mais la vie en survie, la vie de Robinson, est difficile à gérer. Parce qu'on est en vraie survie, c'est-à-dire qu'on ne mange pas beaucoup, on dort par terre, il faut se construire une cabane. Mmh. Et puis, on est avec des candidats qu'on n'a pas forcément choisis, qui ont des caractères très différents, et il faut aussi arriver à gérer ce côté relationnel, c'est important.
Oui, parce que dans l'aventure, c'est une colo, mais voilà.
C'est une colo, mais on s'élimine les uns les autres. Donc ça rajoute un côté un petit peu compétition. Et il n'y a pas toujours une très bonne ambiance, donc il faut arriver à gérer les moments de tension aussi.
Ouais, quand tu parlais de vos valeurs, c'était question que vous vous êtes posée la troisième fois que vous avez participé, savoir justement si vous alliez céder à la stratégie, quoi.
Alors, plus Koh-Lanta avance, c'est-à-dire là, je crois qu'on doit être à la 20e édition, plus la stratégie a une place importante dans l'aventure. Donc, moi, la première fois, quand je l'ai fait, il y a 13 ans, enfin 14 ans maintenant, il n'y avait pas beaucoup de stratégie. La deuxième fois, j'ai perdu parce que je me suis fait avoir. J'ai pas été assez stratège et j'en ai payé le prix.
Dans le livre, vous racontez que la deuxième fois, vous avez perdu parce que finalement, vous avez été contacté par la production pour aller participer et que ça change tout le pourquoi et la motivation.
C'est vrai, c'est-à-dire qu'en général, quand on participe à Koh-Lanta, on doit écrire une lettre de motivation, on doit passer un casting, il y a différentes phases.
Mais ça, c'est en vrai, c'est-à-dire que c'est la vraie histoire. La super lettre de motivation.
Bien sûr, il faut savoir que chaque année, sur un Koh-Lanta normal, on a à peu près 25 000 personnes qui se présentent. Pour entre 16 et 20 candidats, 16 ou 20 places. Donc il y a une vraie sélection qui se fait. Et tout au long de la sélection, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est que ma motivation grandissait au fur et à mesure de la sélection. Et la deuxième fois, je n'ai passé aucune sélection, donc je ne me suis pas posé les bonnes questions, je ne savais pas pourquoi je participais. Et du coup, je n'ai pas fait forcément les bons choix et je n'avais pas au fond de moi cette motivation qui me permettait de dépasser les difficultés. Et c'est pour ça que je suis ressortie de ce Koh-Lanta assez frustrée.
Ouais. Et que vous l'avez refait une troisième fois.
Et je m'étais promis que si j'avais l'occasion de partir une troisième fois, j'essaierais de gommer cette frustration en donnant le meilleur de moi-même et en me donnant à fond.
Alors pour expliquer votre livre, Aller jusqu'au bout, est-ce que vous le mettez dans la catégorie des livres de développement personnel, aujourd'hui de dev perso, comment on dit ?
C'est un petit peu un livre hybride parce que...
Il y a votre histoire et du dev perso.
C'est ça, c'est-à-dire que je pars de mon parcours, alors je parle évidemment de Koh-Lanta parce que Koh-Lanta fait partie de ma vie, mais je parle aussi de mon parcours de sportive.
Joueuse de tennis.
Ouais. De joueuse de tennis quasi professionnelle, on va dire. Je parle de mon parcours de maman aussi, mon parcours professionnel, et je pars de cette expérience-là pour développer certaines idées de développement personnel.
Vous avez failli être une joueuse de tennis, parce que vous vouliez être championne de tennis, c'est pas joueuse de tennis, c'était championne de tennis, ouais. Vous n'êtes pas devenue, est-ce que vous avez compris pourquoi, qu'est-ce qui n'avait pas marché dans la façon de vous préparer?
Alors, déjà je souhaite dire que par rapport à ça, je n'ai aucun regret parce que j'ai eu l'impression, et je pense que c'est la vérité, de m'être donnée à fond dans ma passion et d'avoir essayé tout ce que je pouvais faire pour y arriver. Ça n'a pas marché. Ça m'a prouvé très rapidement que même si on donnait le meilleur de soi-même, ça ne marchait pas toujours. En revanche, ça m'a prouvé aussi qu'un échec, là j'avais pris ça comme un échec, pouvait être le point de départ d'une belle réussite, parce que je pense que si je n'avais pas échoué dans le tennis, je ne me serais pas inscrite à Koh-Lanta. Donc voilà,
d'accord. C'est ce que vous en dites aujourd'hui.
Voilà. Après,
mais ça représente quoi, 10 ans de votre vie au moins, le tennis. C'est-à-dire que vous vous programmez petite fille, à devenir une championne et vous vous projetez, vous faites que ça, vous faites que du tennis. À un moment donné, il y a un deuil à faire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à 19 ans, je me suis dit, il faut que je reste fidèle à ce que je ressens au fond de moi. Ben, peut-être que je me suis trompée et peut-être que c'est pas fait pour moi. Voilà, de ne faire que ça, ce n'est pas fait pour moi parce que jusqu'à mes 18 ans, j'avais malgré tout mes études à côté, enfin comme une lycéenne ou une collégienne normale. Et après mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour ne faire que ça. Et c'est là que j'ai eu cette désillusion de me dire de ne faire que ça, ça me met trop de pression, je ne suis peut-être pas capable de gérer ça. Et je n'ai pas voulu me voiler à la face à ce moment-là. Je n'ai pas voulu m'entêter. Et Koh-Lanta a été un moyen pour moi de rebondir d'une manière différente.
Mais comment vous avez fait, après toutes ces années, de vous dire, finalement, je suis peut-être pas fait pour ça. C'est-à-dire que c'était quand même toute une vie de sacrifice.
C'est ça, alors il faut savoir c'était que j'ai...
des milliers de kilomètres pour aller à l'entraînement, vous habitez l'Ariège, voilà, il n'y a pas des terrains de tennis tous les 3 mètres.
Tout à fait, ça a été un sacrifice déjà bon, pour moi, effectivement, parce que une vie de jeune fille, enfin, je faisais beaucoup de sport, donc je ne sortais pas beaucoup. Enfin voilà, j'ai mis en place beaucoup de choses par rapport à ça. Ça a été des sacrifices aussi pour mes parents qui m'ont toujours soutenue dans cette passion-là. Donc j'avais un petit peu honte même par rapport à eux parce qu'ils se sont investis dans mon projet et qui n'a pas abouti, mais ils ont vu que j'y mettais quand même du cœur et que je prenais ça avec beaucoup de concentration et d'importance. Après la question.
La question, c'est de dire comment est-ce qu'on se dit que finalement après toutes ces années on n'est pas fait pour ça. Comment on s'en rend pas compte avant?
Mais parce que quand on est passionné. C'est la passion qui nous porte et c'est vraiment le fait, j'ai vu le tournant quand j'ai eu mon bac et que je n'ai plus fait que du tennis. Pendant un an, je n'ai plus fait que ça. Et j'ai vu que pour arriver à un certain niveau professionnel, il faut faire que ça, il faut s'investir pleinement là-dedans. J'ai vu que ce n'était pas fait pour moi, forcément pour moi. Et surtout, comment dire, tant que j'avais mes études à côté, le lycée par exemple, je trouvais un équilibre là-dedans. Parce que quand j'étais au tennis, j'étais au tennis. Quand j'étais en cours, j'étais en cours. Je voyais aussi d'autres personnes qui ne faisaient pas partie du milieu du tennis. Et quand je me suis retrouvée à ne faire que ça, j'ai pas voulu me mentir à moi-même. Et dans le livre, le sous-titre, c'est aller jusqu'au bout en restant soi-même. Je n'ai pas voulu me mentir, tout simplement.
Donc là, vous ne pouviez pas aller jusqu'au bout, là, en restant vous-même.
C'est ça. Je suis allée au bout parce que je considère que je suis allée quand même au bout, pas forcément de mon objectif, mais de mes capacités. Voilà. J'ai donné tout ce que je pouvais donner.
Est-ce que vous avez compris pourquoi Serena Williams... Elle est toujours la première depuis tellement longtemps.
Je l'ai compris parce que j'essaie de m'inspirer de beaucoup d'articles, de beaucoup de vidéos, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer un de ses entraîneurs il y a quelques mois. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment tu expliques... C'est quoi la clé? Comment tu expliques ça? Et il m'a dit, Serena, elle a des qualités physiques, mentales, mais elle a quelque chose que très peu de joueuses ont. C'est que même si elle est numéro un mondial, tous les matins, quand elle se réveille, elle a envie de s'améliorer sur un point de son jeu. Ça peut être le physique, un point technique, un point tactique, peu importe. Mais elle est toujours en quête d'amélioration. Alors, forcément, au quotidien, c'est des améliorations infimes. Mais toutes ces petites améliorations mises bout à bout font et expliquent son succès et puis sa longévité aussi. Parce que là, elle a eu un bébé et elle continue à gagner des titres du Grand Chelem.
Puis elle a tout dans sa vie. Voilà.
Et elle a tout. Et
elle a tout pour être heureuse. Finalement, elle a tout gagné. Tout,
Et elle prouve au quotidien aussi, parce que je la suis aussi sur les réseaux sociaux, etc., qu'elle a un très fort caractère et qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Et pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Voilà.
Ça marche pour Roger Federer, ça? Est-ce que lui aussi... Parce que lui aussi, c'est un ovni.
C'est un ovni, oui. Il a 37 ans, il a gagné plus de 100 titres, 100 tournois majeurs. Enfin voilà, pour moi, je trouve que c'est de bons exemples et de belles sources d'inspiration, ces champions-là.
Et ça, c'est ce que vous expliquez aux gens. Essayez de vous inspirer de gens qui le sont dans ce que vous voulez faire, en fait.
Je trouve que c'est important de s'inspirer des gens qui réussissent. Alors, des fois, par rapport aux gens qui réussissent, on ressent un petit peu de jalousie ou on n'est pas à l'aise avec ça parce qu'on se dit pourquoi il réussit et pas moi, etc. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, notamment au tennis, quand j'avais une copine qui gagnait plus que moi. J'étais pas à l'aise avec ça, mais je ressentais un petit peu, on peut le dire, un petit peu de jalousie par rapport à ça. Alors que, avec la maturité et les années, je me dis, mais justement, pourquoi pas m'inspirer de ces gens qui réussissent pour réussir moi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que un tel réussit que moi je peux pas réussir. Au contraire, je vais essayer de voir ce que cette personne met en place pour mettre des choses en place à ma façon aussi et essayer d'avancer dans mon propre parcours.
Dans votre livre, j'ai l'impression que ça arrive tardivement. C'est quand vous rencontrez le gars qui vous aide à méditer, que finalement vous êtes à l'aise avec cette façon de à cette façon de ne pas gagner et finalement de voir les autres gagner.
Mais ça a été un tournant. Le fait de découvrir la méditation, pour moi, ça a été un vrai tournant dans ma manière de penser. Alors j'ai découvert la méditation en me préparant à ce dernier Koh-Lanta, parce que je me suis dit je vais essayer de me préparer physiquement. Mais pourquoi pas aussi me préparer mentalement et psychologiquement. Donc, comme tout le monde, j'ai tapé sur Google, méditation. Je suis tombée sur des vidéos et des enregistrements d'un monsieur qui s'appelle Jonathan Lehmann. C'était des choses très accessibles, même pour des personnes...
Comment ça s'appelle déjà, son portail ?
Son site s'appelle Les Antisèches du Bonheur. Et j'invite tout le monde à aller y faire un tour.
Voilà. Comme ça que ça commence.
C'est comme ça que ça commence. Et puis j'ai commencé à faire mes petites séances toute seule chez moi. Et ça a été rapidement une habitude. C'est devenu une habitude. Donc déjà, ça m'a beaucoup aidée pour Koh-Lanta. Parce que dans les moments critiques, je me suis accrochée à ça pour faire les bons choix et dépasser aussi certaines difficultés. Et puis je continue maintenant que je sais que certainement je ne referai plus Koh-Lanta. Mais je continue et ça m'aide dans ma vie quotidienne.
En fait, vous êtes partie avec dans vos bagages des mantras.
Tout à fait.
Un mantra, c'est quoi ?
Un mantra, c'est une petite phrase qui nous parle et qui est importante pour nous. Alors, il y en a une phrase qui m'a particulièrement aidée, notamment dans les épreuves où, alors dans Koh-Lanta, si vous n'avez pas regardé, il y a des épreuves où il faut rester statique, où il faut rester accroché à un poteau. Enfin voilà.
Ce qu'on appelle l'épreuve des poteaux ?
Alors, l'épreuve des poteaux, il faut rester debout sur un poteau pendant des heures et le dernier qui reste debout a gagné. Donc, par exemple, lors de l'épreuve des poteaux, je me suis répété dans ma tête des centaines de fois ce mantra-là, je vais vous le dire.
Et là, on dit non, vous le saurez après une page de publicité. Non,
si vous voulez.
Non, allez-y.
Non, mais une phrase qui m'aide beaucoup, c'est « Je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux faire de mon mieux ici et maintenant. » Et quand on est sur un poteau en plein milieu de la mer, ben peut-être que c'est ça qui va faire la différence et qui va nous faire tenir une minute de plus.
Et ça, vous le dites combien de fois ?
Ah ben sur les poteaux, là, on est resté 3 heures, donc j'ai eu le temps de me le répéter quelques fois.
Et ça contribue à forger un mental de warrior.
En tout cas, une expérience comme Koh-Lanta et ce que j'ai pu vivre là-bas m'a beaucoup apporté à titre personnel. Ça a beau être une émission de télé, il a beau y avoir des caméras, ça peut faire partie aussi, on peut cataloguer ça dans la télé-réalité. Mais moi, en tout cas, ça a été une très belle aventure personnelle qui m'a beaucoup enrichi.
Mais en quoi ce qui est valable pour une émission comme Koh-Lanta, c'est valable pour la vie de tous les jours ?
Alors, je me suis aperçue que ce que j'ai appris de Koh-Lanta, de ces expériences-là de survie, et aussi ce que j'ai mis en place pour aller au bout de deux aventures comme Koh-Lanta, si je les appliquais à ma vie quotidienne, à ma vie normale, entre guillemets, ça fonctionnait aussi. Donc, je me dis pourquoi ça ne serait pas possible pour les lecteurs de mon livre, notamment. Et si je peux au moins inspirer quelqu'un et encourager quelqu'un à se dépasser pour que cette personne arrive à se rapprocher de ses objectifs, j'aurais gagné mon pari.
Alors c'est dans le livre qui vient de sortir, ça s'appelle « Aller jusqu'au bout de Koh-Lanta, la vie de famille, comment se dépasser en restant soi-même » aux éditions Flammarion. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h, Clémence Castel.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On se motive en ce début de semaine avec Clémence Castel qui est avec nous. Vous avez remporté 2 fois Koh-Lanta, après 3 participations. Et vous publiez... tout ce que ça vous a apporté dans aller jusqu'au bout de Koh-Lanta, la vie de famille, comment se dépasser en restant soi-même. Il y a une punchline de Mohamed Ali que j'aime beaucoup. Mohamed Ali, je ne crois pas aux bonnes décisions, je prends une décision et je la rends bonne. C'était le roi de la punchline, mais c'était le roi de la motivation, Mohamed Ali.
Et je pense que c'est son état d'esprit qui explique sa carrière exceptionnelle. Il avait certainement aussi beaucoup de qualités physiques, mais mentales à toute épreuve pour arriver à dépasser toutes les difficultés qu'il a pu vivre. Donc, ouais.
Vous expliquez dans votre livre que pour faire quelque chose, il faut trouver son pourquoi. Ça paraît simple comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire que de chercher son pourquoi ?
Trouver son pourquoi, c'est trouver la raison pour laquelle on fait les choses, donner un sens à ce qu'on fait. Souvent, il m'est arrivé de faire des conférences en entreprise, et quand je demande pourquoi vous vous levez le matin pour aller travailler, la plupart des gens me disent c'est pour gagner de l'argent, ce qui paraît
logique. C'est déjà pas mal.
Bon. Mais ce que je leur dis, c'est que pour vraiment arriver à trouver de la motivation et arriver à vibrer dans ce que vous faites, c'est ce qui est important, c'est de se demander pourquoi vous voulez gagner de l'argent. C'est d'aller plus loin dans la réflexion. Mmh. Et là, il y a beaucoup moins de personnes qui savent répondre à ça.
J'ai essayé de faire l'exercice avec vous. C'est difficile de savoir précisément pourquoi on fait les choses, en fait.
Et je pense que les gens qui réussissent le mieux sont ceux qui savent exactement pourquoi ils font les choses. Parce que, du coup, ils ne font plus les choses par obligation, mais ils font les choses par motivation et par envie. Mmh. Et là, ça donne une puissance exceptionnelle et ça permet d'atteindre ses objectifs et voire même de les dépasser parfois. Et les deux fois où j'ai gagné Koh-Lanta, je savais exactement pourquoi j'étais là. Et la fois où j'ai perdu, je ne savais pas pourquoi j'étais là.
Parce qu'on vous l'avait demandé.
Parce qu'on me l'a demandé, mais ce n'était pas une motivation personnelle.
Parce que vous étiez là, parce qu'on vous l'a demandé, mais ce n'était peut-être pas suffisant pour...
C'était pas suffisant pour dépasser certaines difficultés ou certaines épreuves, ou en tout cas faire les bons choix pour aller le plus loin possible.
Il y a des exercices pour trouver son pourquoi ?
Je pense que ce qui est important, c'est d'écouter la petite voix qu'on a au fond de nous et qui nous parle. Alors des fois, cette petite voix, on n'a pas envie de l'écouter parce que... ce qu'elle nous pousse à faire n'est pas conforme à ce qu'attendent les autres ou à ce qu'attend la société.
Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait du regard des autres?
Par exemple, quand je me suis inscrite la première fois à Koh-Lanta, tout mon entourage m'a dit « Mais non, n'y va pas, t'es trop jeune, tu vas rater 2 mois de cours, j'étais étudiante, donc tu vas rater 2 mois de fac, c'est le milieu de la télé, c'est pas fait pour toi, tu vas te faire bouffer, t'es trop gentille. » Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Mais parce que je savais exactement pour quelles raisons j'avais envie de participer, je me suis plus écoutée moi-même que je n'ai écouté les autres. Et pourtant, c'était mon entourage proche qu'on a plutôt tendance à écouter. Mais j'ai fait fi de ça et je me suis écoutée et l'histoire...
Vous avez donné raison. Parce que souvent, on se rend compte que notre entourage n'est pas toujours bon entraîneur. Hein. En général, les gens vous freinent plutôt qu'ils ne vous poussent. Ils trouvent toujours une bonne raison de ne pas vous envoyer quelque part.
J'ai remarqué ça aussi, et notamment lors de mon dernier Koh-Lanta, j'en reviens à Koh-Lanta, mais je suis maman de 2 petits garçons qui avaient à l'époque 3 et 5 ans.
Qui étaient petits,
ouais. Et tout le monde m'a dit « N'y va pas parce que ta place, elle n'est pas au Fidji, ta place, elle est à la maison. » Mais en moi, j'avais cette envie et ce pourquoi, si on peut l'appeler comme ça, et qui était plus fort que ça, et je savais que par rapport à mes enfants, c'était un sacrifice, mais en tout cas, sur place, ça a été une vraie source de motivation, mes enfants, parce que je me suis dit, je ne veux pas les avoir quittés pour rien. J'ai fait ce sacrifice-là de m'éloigner d'eux pendant 10 semaines, mais c'est pour faire un beau parcours et pas pour gâcher ma chance.
Alors, la première fois que vous partez en 2005, c'était pourquoi ?
Alors, c'était intimement lié à mon échec dans le tennis. Et quand j'ai repris mes études après cette année sabbatique qui a été un échec, qui était lié au tennis mais qui a été un échec, l'été qui a suivi, j'étais sur mon canapé, je regardais Koh-Lanta et je me suis dit « Est-ce que ce serait pas un bon moyen de me prouver à moi-même et de prouver aux autres que je peux briller en dehors d'un cours de tennis ?» Parce que depuis que j'ai 6 ans, je joue au tennis presque tous les jours, ça a été ma vie pendant des années. Il est temps de passer à autre chose et de prouver que je suis capable de belles choses, pourquoi pas sur une île déserte.
Mais là, vous vouliez prouver à des gens, en fait. Vous l'avez fait pour montrer à des gens que vous étiez capable.
Alors, dans un premier temps, à moi-même. Et puis, malgré tout, je parlais tout à l'heure de mes parents que j'avais peur de décevoir par rapport au tennis parce qu'ils sont beaucoup investis dans mon projet. Je me suis dit, c'est peut-être un moyen de gommer peut-être leur déception. Ils n'ont jamais montré vraiment de la déception.
Ils ne l'ont pas verbalisé.
Non, ils ne l'ont pas verbalisé. Ils ne m'en ont jamais voulu. Je n'ai jamais ressenti ça. Mais moi-même, je me mettais cette pression-là. C'était ma manière à moi de rebondir après un échec.
Et la deuxième fois, c'était quoi le pourquoi ?
Alors, donc la deuxième fois, on m'a appelé pour participer et j'ai perdu. Et pour ma troisième participation et du coup ma deuxième victoire l'année dernière, après ma défaite en 2009 dans Koh-Lanta, je suis ressortie extrêmement frustrée et je m'en voulais de ne pas avoir donné le meilleur de moi-même. Et je m'étais promis que si j'avais l'occasion de participer à nouveau, j'irais avec beaucoup de motivation et beaucoup d'envie. Donc là, mon but, c'était de gommer cette frustration-là et de vivre les choses à fond, que ce soit dans la survie, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans la relation aux autres aussi, et pourquoi pas la stratégie, mais au moins de donner mon maximum pour aller le plus loin possible. Et si le maximum était de gagner, ben je ne me mettais aucune limite.
Mais qu'est-ce qui fait que vous faites la différence alors ?
Je pense que pour gagner, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je pense avoir un caractère naturellement assez discret. Donc, je pense que pour aller loin, il ne faut pas trop se montrer dès le départ. Donc, ça, c'est plutôt un bon point.
Il faut passer sous les radars.
Il faut être fort physiquement, mais pas trop, parce que sinon, on fait peur. Donc, bon, moi, je savais que j'étais endurante. Voilà, dans les épreuves, j'assurais, mais je n'étais pas la meilleure non plus physiquement. Donc, mon niveau sportif correspondait à ce qui peut mener loin. Et puis, je pars du principe aussi qu'il faut une part de chance. Ou en tout cas, saisir sa chance, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais il y a une part de chance aussi dans le fait de gagner Koh-Lanta. Mais une fois qu'on tient cette chance-là, il ne faut pas la lâcher. Donc, voilà, il faut arriver à saisir la chance, à l'avoir d'abord, à la saisir et la transformer en victoire.
Et vous expliquez, Clémence Castel, que c'est bon la victoire. Et que vous, finalement, vous arrivez à visualiser les bienfaits de la victoire.
Disons que à travers mon parcours de sportive et mon parcours dans Koh-Lanta, j'ai appris à gagner, j'ai appris à perdre aussi. Mon expérience me dit que, malgré tout, le plus important, c'est le chemin qui mène au résultat, c'est pas le résultat lui-même. Je m'explique.
C'est-à-dire que pour vous, la manière, elle est importante.
La manière est importante et...
C'est pas le résultat qui est important.
C'est ça. À mon sens, c'est ça.
D'accord.
Parce que même si on échoue, à partir du moment où on a donné le meilleur de soi-même, on n'a pas de regrets à avoir. Donc ça permet d'accepter mieux l'échec aussi. Et puis, quand il y a une victoire... de la bonne manière, ben là, c'est le summum.
C'est mieux. Vous dites que vous vous projetez sur les effets qu'auront la victoire sur vous. Et donc,
Disons que ça m'aide à... Dans Koh-Lanta, ça m'a aidé à tenir dans certaines épreuves ou à dépasser certaines difficultés parce que je me dis, si je fais l'effort maintenant et que cet effort-là me mène à la victoire, je pense aux bienfaits que peut apporter la victoire et ça me motive encore plus à me dépasser, en fait.
Quelle part la notoriété et la célébrité, ça, dans votre motivation chez vous ?
Alors,
être connu pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui passait à la télévision et
j'ai pas fait Koh-Lanta pour ça, clairement.
C'était pas votre pourquoi.
C'était pas mon pourquoi du tout que de passer à la télévision et d'être connu. Après, ça reste une émission qui est regardée par 5 à 6 millions de téléspectateurs. Donc ça a des. La première fois, j'avais pas conscience de ça en fait, de ce que ça pouvait changer à ce niveau-là. Après, j'ai la chance. Plutôt d'avoir eu une image préservée. Et puis, comme j'étais assez discrète, je ne me suis pas trop mise en avant. Et puis, j'ai eu à cœur aussi de ne pas trahir ma parole, etc. Parce que je me disais, à l'époque, mes grands-parents vont me voir, je n'ai pas envie qu'ils aient honte de moi. Ce n'était pas tellement les 5 millions de téléspectateurs, c'était plus mes proches. Je n'avais pas envie de les décevoir. Donc, j'ai essayé d'avoir un caractère et puis un comportement...
Rester digne,
etc.
Pas dire de gros mots.
Exactement. Et la dernière fois, je ne pensais pas à mes grands-parents, je pensais à
vos enfants.
À mes enfants, évidemment. Mais la notoriété fait partie du jeu quand on participe à Koh-Lanta. Ouais. Après, il faut penser, quand on est dans le jeu, dans le tournage, que tout ce qu'on peut faire va être jugé, va être
exploité. À l'image.
Donc après, il faut simplement, quoi qu'on fasse, assumer ce qu'on fait. Voilà. Et le fait de rester soi-même, ça aide parce que à partir du moment où on reste soi-même, on peut expliquer toutes les décisions qu'on peut prendre, tous les choix qu'on peut faire.
L'argent, est-ce que c'est une motivation ? Est-ce que ça peut être un pourquoi ?
L'argent, est-ce que ça peut être un pourquoi ?
Je ne sais même pas comment on gagne moi, à Koh-Lanta d'ailleurs.
Alors, les vainqueurs gagnent 100 000 euros. Le vainqueur gagne 100 000 euros.
Ah, donc vous avez gagné deux fois 100 000 euros ?
Deux fois 100 000 euros.
Oh, ben, ça vaut le coup. Non, ça vaut le coup.
Voilà. Après, les autres
d'aller
gagnent...
D'aller chasser des chèvres.
On va lancer le dossier.
Ah oui, mais ça peut être une motivation finalement pour certains.
Exactement, ça peut être une motivation. Ouais. Moi, en tout cas, c'était pas ma motivation. Après, bon, je les ai pris les 100 000 euros,
ah bon,
les deux fois 100 000 euros avec plaisir. Hein. Mais c'était pas ma motivation première et j'ai envie de dire que les deux fois où ça a porté ses fruits, au moment où j'ai gagné, à part les deux derniers jours, j'ai pas pensé à la victoire finale.
À quel moment vous y pensez ?
À partir du moment où, en fait, à la fin, quand on n'est plus que quatre, Il reste deux épreuves, dont celle des poteaux où on reste debout, mais il n'y a plus de vote les uns contre les autres. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se projeter quand même dans la victoire.
Mais la deuxième fois, la troisième fois que vous y êtes allé, vous aviez gagné déjà une fois, donc les gens pouvaient se méfier de vous.
C'est ça.
Mais finalement, vous voyez.
Et j'étais la seule participante à avoir déjà gagné.
Mais c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, les autres pouvaient se dire, tiens, attention, celle-là, elle a déjà gagné.
Ouais. Alors c'est ce qui s'est passé entre autres lors de ma défaite en 2009, c'est qu'ils se sont dit, elle a déjà gagné il y a pas longtemps, on va la virer. Et ça, je l'ai su dès le premier jour. Hein. Donc c'était dur psychologiquement à gérer parce qu'ils m'ont dit, toi, t'as déjà gagné. Donc.
Mais qui vous a dit ça?
D'autres candidats.
Ah ouais.
Ouais.
Donc c'est transparent au moins.
Ah oui, c'était très transparent. Donc je suis arrivée jusqu'à la moitié du jeu et après j'ai été éliminée. Mais bon, c'est comme ça. Et cette année, je pense que le fait que ça fasse 13 ans que j'ai gagné.
Je dis c'est la senior, donc ouais.
Voilà. Et puis moi, j'ai été très discrète par rapport à ça. Et je n'ai pas souligné. Voilà. Ma petite stratégie a été de faire oublier que j'avais déjà gagné. Mais ça a plutôt bien marché.
Alors, rappelez-moi cette histoire de chèvre. Là. On parlait d'une chèvre avec Mohamed. La première fois, c'était quoi cette histoire?
Ah bah ça fait partie des scènes cultes de Koh-Lanta.
Ouais.
Qu'on peut retrouver encore, je pense, sur YouTube.
Ah, je vous le confirme.
Voilà. Donc en fait, lors de ma première saison, j'étais en équipe avec un candidat emblématique qui s'appelait Mohamed. Certains s'en rappellent certainement. Qui était déjà très fort dans les épreuves et qui était... aussi au niveau de la survie, très fort,
très débrouillard,
ingénieux, et qui avait toujours de bonnes idées. Et un jour, on l'a vu partir avec la machette. Et il est parti. Il est allé, il nous dit, je vais essayer de trouver à manger. Une heure passe, deux heures passent, et au bout de trois heures, on le voit revenir au bout de la plage avec une chèvre sur les épaules. Et il avait réussi à capturer une chèvre sauvage, en fait, et à nous la ramener sur le camp. Alors, que faire de cette chèvre? Parce qu'on avait tous des avis différents. Certains ne voulaient pas entendre parler du fait de la tuer parce que on était dans une émission de télé et que ça justifiait pas de tuer un animal.
C'était avant les véganes.
C'est ça.
Faut quand même le dire. C'est que votre première saison, c'était avant le phénomène.
C'est ça. D'autres étaient pour la tuer et la manger. Moi, à titre personnel, je leur avais dit, je me sens pas du tout, je me sentirais pas le courage de la tuer. En revanche, je suis bien d'accord pour la manger.
C'est fort, la chèvre.
Voilà. Donc
on peut faire du fromage, faut me dire.
On aurait pu prendre le lait, tout ça. Et le problème principal, c'était que c'était une chèvre qui était pleine, qui attendait un bébé.
Ouais.
Et la production nous a interdit, en fait, nous a repris la chèvre. Ce que je comprends tout à fait, a mis Mohamed dans un état de nervosité assez important, parce qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour
capturer la bête.
Pour la capturer, ouais. Et il voyait déjà le petit barbecue se profiler. Finalement, ça n'a pas été possible.
La protéine, c'est bien aussi. Hein.
Ah oui, mais moi, je leur ai dit, moi, si vous acceptez de la tuer, j'en mange avec plaisir.
Bien, Clémence Cassel était avec nous. Alors, votre livre s'appelle « Aller jusqu'au bout » de Koh-Lanta, la vie de famille. Vous nous en parlez ce matin, « Comment se dépasser en restant soi-même » aux éditions Flammarion.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Clémence Castel est avec nous, vous avez participé trois fois à Koh-Lanta, vous l'avez gagné deux fois aujourd'hui. Vous partagez dans un livre, alors des anecdotes sur Koh-Lanta, mais aussi ce qui a fait votre force, et aussi beaucoup de trucs, d'expériences qu'on peut appliquer au quotidien. Le livre s'appelle « Aller jusqu'au bout de Koh-Lanta, la vie de famille, comment se dépasser en restant soi-même » aux éditions Flammarion. Vous parlez de cette pauvre chèvre, qui a quand même sauvé sa vie tout à l'heure. Qui avait
été capturée. Elle est repartie, saine et sauve.
En 2005, par Mohamed. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Donc j'ai continué l'aventure avec Mohamed, qui a été un grand frère un petit peu dans cette aventure-là. Et je dois avouer que je suis ressortie vainqueur de cette édition. Mais Mohamed m'en a un petit peu voulu, parce que il faut savoir qu'on était, peut-être que certains s'en rappellent, lors de l'épreuve des poteaux, qui est la dernière épreuve de l'émission, on était trois. Donc il y avait Mohamed, il y avait un autre candidat qui s'appelait Francis, et moi. Et il se trouve que j'ai gagné cette épreuve-là, et que je devais choisir entre les deux autres participants, lequel viendrait avec moi en finale. Donc c'était un dilemme, parce que j'avais vécu toute l'aventure avec Mohamed, de qui j'avais été très proche et qui m'avait beaucoup aidée, mais contre qui j'étais, on va dire, quasiment sûre de perdre. Et il y avait l'autre candidat, de qui j'étais beaucoup moins proche, mais contre qui j'étais sûre de gagner. Et donc il a fallu faire le choix entre les deux, Et donc, j'ai choisi l'autre personne qui s'appelait, le monsieur s'appelait Francis, et je n'ai pas choisi Mohamed. Donc, il m'en a voulu, ce que je peux comprendre. Après, bon, on en a discuté, il a compris mon choix, mais voilà.
Bon, vous faisiez quand même déjà de la stratégie sans savoir, hein, lors de la première édition. Hein.
Le dernier jour, j'ai fait la stratégie. Mais après, je me suis dit, quand il a fallu choisir, je me suis dit, si je choisis Mohamed et que je perds, je pense que ça va me suivre toute ma vie et que je regretterai toute ma vie. Non pas qu'il gagne, hein, parce qu'il le méritait amplement, même peut-être plus que moi, mais d'avoir fait, à titre personnel, le mauvais choix.
Vous expliquez pendant, comment les premières années, vous avez été programmé, vous vous êtes entraîné pour devenir une championne de tennis. Est-ce que, en quoi cette préparation et l'esprit de compétition a changé votre personnalité, vous le savez, et déformé votre personnalité ?
Je pense que cette expérience dans le tennis a été une très bonne école pour moi. Et je pense que le sport est en général une très bonne école pour les enfants et puis les moins jeunes aussi. Ça m'a donné ça m'a donné un mental de compétitrice. Enfin, ça a renforcé ça. Parce que forcément, quand on est sur un court de tennis dès l'âge de 6 ans et qu'on doit essayer de trouver des solutions, qu'on est toute seule face à une adversaire, que parfois on est mené au score, et il faut arriver soi-même à trouver les ressources pour essayer de renverser la vapeur, trouver aussi le courage d'aller s'entraîner tous les jours alors qu'on n'en a pas forcément envie. Enfin, tout ça, c'est très riche d'enseignements. Et je pense que c'est ce que j'ai appris dans le tennis. Donc déjà, m'a beaucoup aidé dans Koh-Lanta. Je pense que j'aurais pas gagné Koh-Lanta sans cette expérience dans le tennis. Mais m'aide aussi dans ma manière d'aborder ma vie de femme, ma vie professionnelle, ma vie de maman. Et ça me suit comme ça. J'essaie de retrouver un petit peu les mêmes mécanismes pour avancer au quotidien.
D'ailleurs, aujourd'hui, vous continuez à vous entraîner. Hein. Vous partez courir 3 fois par semaine et vous dites que vous y allez quel que soit le temps, finalement.
Ouais. C'est ça. Et j'adore quand il fait froid, qu'il y a de la boue et qu'il pleut. Je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être analyser la chose. Hein, mais...
Ben vous dites ça parce que là, on va vers l'été. Mais en plein hiver, là, quand on voit qu'il fait froid, tout ça, on se dit, tiens, j'irai demain. Jamais, ça n'arrive pas.
Non, c'est très rare. C'est très rare. Ou alors, c'est que mes enfants ont vraiment besoin de moi et que j'ai pas d'autre solution. Mais là aussi, quand j'ai pas envie d'y aller, je pense au bienfait que ça va m'apporter après. Voilà, et que quand on rentre d'un footing, on est toujours bien. Et je pense au bain chaud que je vais prendre après.
Voilà, c'est ça. C'est comme la victoire.
C'est ça, exactement.
Les médias vous ont beaucoup repris sur vos problèmes de santé. D'ailleurs, j'étais étonné de voir qui. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez en parler ou pas ?
Je me suis posé la question.
Parce que c'est quand même voilà,
c'est très personnel.
C'est très personnel.
Ouais,
et
après, je voulais pas faire du trash non plus. Il faut savoir que dans le livre, j'en parle sur 2-3 pages.
Mais non, c'est tout petit. Mais voilà. J'ai vu que la reprise a été massivement sur sur votre état de santé.
Oui. Après, j'en ai parlé parce que je voulais que ce livre, à l'instant T, regroupe tous les moments forts de ma vie. Donc ça en fait partie, même si c'était pas le meilleur moment, mais ça en fait partie quand même. Ça a été repris parce que je pense que les gens aiment bien les scoops ou des choses comme ça. Mais je regrette pas du tout d'en avoir parlé parce que voilà, quand je relirai ce livre dans 20 ans, il y aura.
C'était l'instant T.
C'était ce moment-là. Après, j'ai pas de problème pour en parler, parce que c'est pas tabou pour moi.
Est-ce que finalement, vous abordez ces questions-là comme vous abordez une compétition ?
Je pense que mon état d'esprit et ma manière de voir les choses et de voir la vie, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on vous dit, vous avez une tumeur dans le bassin, on sait pas ce que c'est peut-être cancéreux, c'est peut-être un cancer des os.
Peut-être qu'au moment où vous attendez les résultats.
Forcément, on pense. Même ce que je veux dire, c'est que même si je suis une personne assez positive en général et qui arrive à voir le bon côté des choses, à ce moment-là, j'ai forcément pensé au pire. Parce que, en plus, je venais d'accoucher, j'avais un petit nourrisson dans les bras qui avait même pas un mois, notre fils aîné qui avait pas encore 2 ans. Donc, on pense à l'avenir, on sait pas de quoi vont être faits les mois qui vont arriver. Donc, instinctivement, j'ai pensé à l'hospitalisation, à des traitements lourds, etc. Mais c'était plus fort que moi, et j'ai envie de dire que même moi, qui ai un état d'esprit positif, j'ai pas réussi à aller au-delà. Mais rapidement, je me suis dit aussi, attendons quand même de voir les résultats avant de trop s'alarmer.
Et faire de films.
Trop se faire de films. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là parce que c'était une tumeur hormonale et non cancéreuse. Cependant, je suis encore suivie parce qu'on ne sait pas trop comment peuvent évoluer les choses. J'aime me dire que c'est un petit rappel de la vie et que ça me permet de relativiser encore plus les petits soucis du quotidien. De me dire, finalement, voilà, j'ai deux enfants en bonne santé, je suis moi-même, je peux vivre normalement en ayant ça, mais je peux vivre quand même normalement. Donc c'est déjà une grande chance.
Alors, vous racontez les coulisses un petit peu de Koh-Lanta. Tout le monde se demande comment ça se passe. Savoir si c'est bidonné. Est-ce que les gens sont castés avec du profilage?
C'est-à-dire
des profils de personnalité. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même qu'on essaie de mettre un fort en caractère, un grincheux.
Clairement. Je pense que le casting...
Avec un accent du Nord.
Le casting est fait de telle sorte que le téléspectateurs puissent s'identifier à un des personnages, enfin un des candidats. Donc en effet, il y a des jeunes, des moins jeunes, des forts en caractère, des plus discrets. Il y a toutes les couleurs de peau en général. Enfin voilà, c'est fait pour que chacun puisse s'identifier. Et moi, ça m'a appris quelque chose de super important. C'est que dans une équipe, par exemple, on était à chaque fois tous très différents. On vivait sur une île, donc on était obligés de se côtoyer. Et parfois, il m'est arrivé le premier jour ou les deux premiers jours d'avoir des a priori sur des gens. Mais le fait de les côtoyer et d'être obligé d'être avec eux, le fait de s'intéresser à ces personnes-là, d'apprendre de leur passé, de connaître leur histoire et tout ça, ça rapproche même des personnes les plus différentes. Et moi, j'ai créé des liens d'amitié très forts avec des gens qui ont un caractère totalement opposé au mien.
Toujours aujourd'hui ?
Toujours aujourd'hui, oui. Ouais. Et c'est des liens très...
15 ans après, vous êtes...
15 ans après, on s'envoie quelques messages. On peut pas dire qu'on soit proche, mais on a partagé des choses tellement fortes qu'il y a
Est-ce
quand même un lien.
Est-ce que Denis Brognard vous appelle toutes les semaines pour savoir comment vous allez?
Pas toutes les semaines, mais c'est quelqu'un de très bienveillant avec tous les candidats. Et c'est un petit peu notre grand frère. Et moi, il m'a pas mal, comme j'ai fait un petit peu d'animation télé et de publicité. Enfin, voilà, j'ai évolué un petit peu dans ce milieu-là. Il m'a souvent donné des conseils et de bons, enfin ce que j'estime de très bons conseils.
Judicieux,
et puis lui, il mène sa carrière d'une main de maître, donc ça peut être aussi une source d'inspiration.
Bon, alors après, il y a tout ce qui est lié à l'hygiène. Alors là, ça intrigue beaucoup les gens. les poils sous les bras, les poils sur les jambes. Ouais. J'ai beaucoup de copines qui me disent je ne pourrais pas y aller, j'ai trop de poils sur les jambes.
Donc plus l'émission avance. Plus l'émission avance, moins les caméramen font des gros plans.
Oui, d'accord. vous avez pas une caravane à un moment donné sur le caché dans le camp pour
malheureusement. En même temps, on n'y va pas pour avoir du confort. On y va.
Mais c'est quand même c'est de la télévision quand même.
Ça reste de la télévision.
Donc, faut quand même être beau.
Naturellement, je trouve que les candidats sont plus beaux à la fin qu'au début parce que on est tous un petit peu
blanc,
minces. Enfin, à la fin, on est plus mince et plus bronzé, donc voilà. Dans le contrat, il est malgré tout noté qu'à aucun moment on ne sera filmé dans des positions un petit peu délicates ou on ne donnera pas une image de nous dégradante, en tout cas.
Mais il n'y a pas un campement avec des toilettes cachées, il n'y a pas des douches cachées.
Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de brosse à dents, il n'y a pas de restaurant caché.
Vous expliquez comment on fait du très bon dentifrice. Alors là, c'est pour tout le monde, là. Parce qu'en ce moment, comme personne ne veut plus acheter du dentifrice parce qu'il y a des substances devant, donc vous faites ça très bien.
Voilà, avec de la cendre froide, évidemment, de feu, mélangée avec un petit peu d'eau. On fait une petite pâte avec ça. Et puis on se l'applique, alors soit avec une brosse à dents quand on en a une, soit avec le doigt, on frotte ses dents et ça rend les dents hyper blanches.
Bien. D'ailleurs, le feu de bois, c'est votre Madeleine de Proust à vous.
Voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai et on a des odeurs comme ça ou même des bruits qui nous rappellent Koh-Lanta de suite. Alors l'odeur du feu, moi, me rappelle Koh-Lanta. Et aussi, quand il m'arrive d'aller sur un bateau, le petit clapotis de l'eau me fait penser à Koh-Lanta directement.
Et ce qui est paradoxal, c'est que vous, la première fois, vous ne deviez pas partir, en fait. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté que vous êtes parti.
Ouais. Et c'est là que je me dis que j'ai vraiment une bonne étoile. C'est que j'avais fait toutes les phases du casting. C'est-à-dire que de 25 000, on était passé à 20 candidats. Donc, ils m'appellent pour me dire qu'on n'est plus que 20. Donc là, j'y croyais vraiment. Et ils me disent, écoutez, il y en a 16 qui partent, mais vous faites partie des 4 qui ne partent pas. Alors là, ça a été l'ascenseur émotionnel. Je leur ai simplement dit, écoutez, moi, je suis prête. Si vous voulez, je pars demain. Si quelqu'un se désiste, je serai là. Et 15 jours après, il y a une personne qui n'a pas pu se libérer par rapport à son activité professionnelle. J'ai remplacé cette personne-là et finalement, c'est moi qui ai gagné. Donc, je crois un peu au destin.
Voilà. Alors d'ailleurs, dans votre livre, hein, vous donnez, on va pas donner la page, mais le secret pour gagner absolument Koh-Lanta. Le secret imparable. Cette année, qui c'est qui va gagner ?
Moi, j'ai eu un coup de cœur pour une candidate qui s'appelle Béatrice. Voilà. Après, c'est pas la personne la plus discrète. Et puis, elle est aujourd'hui, elle est chef d'équipe. Donc voilà, elle est un petit peu mise en avant. Et sinon, j'aime bien Alexandre, qui fait partie, je sais plus, de l'équipe des Rouges, je crois. Qui est en plus cherbourgeois. Mais alors maintenant, je suis normande. Donc voilà.
Donc, ariégeoise.
Je suis ariégeoise de base et normande d'adoption.
On reste ariégeoise, franchement. D'être d'où ?
De Tarascon sur Ariège, donc c'est...
Pourquoi vous ne faites pas du rugby ?
J'en ai fait.
Ah oui, parce qu'à Tarascon sur Ariège, c'est un truc qu'on fait, c'est du rugby.
Mais c'est vrai.
Mais non, attendez.
C'est vrai. Mais j'en ai fait dans mes jeunes années, j'en ai fait. Mais vu le physique que j'ai, je me faisais...
C'est vrai que vous avez plutôt un physique à jouer derrière, comme on
c'est
dit.
C'est ça. Hein ? J'étais pas
Vous n'êtes pas en première ligne.
C'est ça.
Ah oui, non, mais... Ah, c'est pour ça, c'est marrant de, finalement de l'Ariège et de le parcours que vous avez eu. Aujourd'hui, bon, là vous avez gagné deux fois. Vous vous projetez comment ? Quel pourrait être votre nouveau défi ?
Mon nouveau défi, alors c'est pas forcément médiatique, mais c'est un lien avec le livre, c'est que j'ai envie de partager mon expérience à travers des conférences ou des réunions, notamment en entreprise. Parce que je pars du principe qu'il y a de vrais parallèles qui peuvent être faits entre une aventure comme Koh-Lanta et une carrière professionnelle. Parce que dans Koh-Lanta, comme dans le travail, on est face à des difficultés, on va vivre des épreuves, on va vivre des réussites aussi. Et en tout cas, on a des objectifs importants. Donc, je trouve qu'il y a un vrai parallèle qui peut être fait entre ces deux choses-là.
Il y a des ponts, finalement.
Il y a des ponts. Ouais. Et moi, le défi, c'est d'arriver très personnel, hein, à m'exprimer face à 200, 300, 400 personnes et en étant à l'aise et sûr de moi.
Donc, oui, alors voilà. Que vous avez été vu par des millions de téléspectateurs.
C'est ouais, fou, hein. Mais des millions de téléspectateurs, mais à travers une caméra. Je ne les avais pas face à moi. Quand on a 300 perdus qui sont sur vous, faut arriver à s'exprimer clairement et à transmettre le message qu'on veut transmettre. Et pour moi, c'est un vrai défi.
Termine par une punchline. C'est quoi votre punchline préférée ? Attention, hein, elle va nous faire toute la journée. Hein. On va la garder toute la journée.
Alors, je ne sais pas si ça va être très, très clair, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Et pas avoir peur d'échouer, parce que quand on échoue, on apprend quand même toujours. C'est pas une punchline.
Pas mal.
Punchline.
Du lundi.
Du lundi, voilà.
Un punchline du lundi. Clémence Castel était notre invitée. Je rappelle le titre de votre livre, Clémence. Aller jusqu'au bout de Koh-Lanta à la vie de famille. Comment se dépasser en restant soi-même aux éditions Flammarion. Et on salue tous ceux qui nous écoutent à Tarascon sur Ariège. Où on nous entend très bien aux portes de Toulouse. D'ailleurs, c'est pas si loin de Toulouse finalement.
Ah, c'est à une petite heure.
Hein, c'est à côté. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup Philippe, c'était un plaisir.
Beurre FM, 9h-10h, à votre santé avec Philippe Robichon.